Jésus raconta cette parabole. Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne. »«
Non, je ne veux pas, » répondit-il.
Mais plus tard, il changea d'avis et se rendit à la vigne. Le père adressa la même demande à l'autre fils.
Celui-ci lui répondit « Oui, père, j'y vais. »
Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Demanda Jésus.
Le premier, répondirent-ils.
Alors Jésus leur dit, eh bien, je vous le déclare, c'est la vérité. Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous en montrant le juste chemin, et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru. Et même après avoir vu tout cela, vous n'avez pas changé intérieurement pour croire en lui. Si j'avais à formuler un vœu sous forme de béatitude en ce début d'année civile nouvelle, je dirais ceci. Heureux ceux et celles qui, ayant fait l'expérience de l'échec, de leurs faiblesses et de leurs limites, les acceptent et s'appuient sur la fidélité bienveillante de Dieu. Oui, mes amis, c'est dans cet esprit qu'il nous faut accueillir ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Or, la question qui nous est posée en cet instant, c'est « Peut-on vraiment tout recommencer ?» Eh bien non, on ne peut pas tout recommencer, ni non plus repartir à zéro. Ce qui est derrière nous, on ne peut pas le recommencer. Mais la bonne nouvelle en ce jour, c'est que nous pouvons repartir en acceptant d'être pris par la main, par le Seigneur, pour écrire une page nouvelle de notre vie avec lui qui nous l'offre. Nous le savons, ni nos souhaits, ni nos belles résolutions sont décisives dans notre vie, ni d'ailleurs dans notre vie de chrétien, puisqu'au travers de l'Évangile, le Christ nous rappelle que ce qui compte dans nos vies, c'est ce que lui veut faire en nous et avec nous. Et puis, ce qui compte pour lui, ce ne sont pas nos belles paroles, mais nos actes. Nous l'avons entendu dans notre parabole, celui qui est approuvé, c'est bien le Fils qui finit par aller travailler dans la vigne. C'est celui qui fait la volonté de son père. Matthieu, d'ailleurs, nous le rappelle encore à trois autres reprises dans son évangile, en citant les paroles de Jésus. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon père. C'est en Matthieu 7. Et puis, un peu plus loin, dans le même chapitre, celui qui se limite à écouter la parole et ne la met pas en pratique est comme quelqu'un qui construit sa maison sur le sable. Enfin, quand Jésus adresse ce reproche aux pharisiens en Matthieu 23, ils disent « mais ils ne font pas ». On m'a rapporté qu'une personne, par suite d'un accident de voiture, était maintenant obligé de se déplacer en chaise roulante. Ses voisins et ses amis venaient la visiter, cette personne, et en partant, plusieurs lui disaient « Bien, nous allons prier pour toi. » Et l'accidenté en question répondait « Oui, c'est bien, mais en fait, je peux très bien faire mes propres prières moi-même. Si vous voulez vraiment m'aider, lavez la vaisselle qui se trouve dans l'évier.
et apporter mes sacs d'ordures dans le container devant la maison. Bien sûr, cette personne avait besoin d'aide et voulait que les prières et les bonnes paroles de ses visiteurs soient suivies, soient accompagnées de gestes concrets. Aujourd'hui, l'un des drames de notre vie sociale se produit lorsque la parole donnée cesse précisément de se traduire en acte. Et nous connaissons tous cette triste réalité dans notre société, ce qui fait que nous ne croyons plus guère aux discours des politiciens, aux promesses de la publicité ou même aux nouvelles de certains médias. Et on constate ainsi, hélas, que la parole donnée a perdu de sa valeur et en conséquence la confiance avec elle, ce qui est bien plus grave. Mes amis, ce que nous dit l'Évangile aujourd'hui, c'est que notre foi chrétienne ne doit pas être une foi de parole seulement, mais une foi active qui influence tous les aspects de notre vie et qui nous renvoie ainsi à nos responsabilités quotidiennes. Il s'agit de faire et non de dire. Notre parabole nous rappelle par ailleurs une autre vérité tout aussi essentielle, à savoir que dans nos vies, aux yeux du Seigneur qui nous connaît si bien, les jeux ne sont jamais faits et il est toujours temps de se reprendre. Avec Jésus, quelle que soit notre histoire, quels que soient nos échecs, quels que soient nos refus précédents, un changement est toujours possible. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous ne sommes jamais enfermés dans notre passé. Lui, Jésus, nous offre une nouvelle chance. Et personne n'est figé dans ce qu'il a fait auparavant. Personne n'est étiqueté dans ce qu'il a vécu, en bien ou en mal. Le Seigneur, en chacun de nous, ne voit que ses enfants qui avancent ou qui reculent. La parabole des deux fils est un appel au changement adressé à chacun, à celui qui ne veut pas, comme à celui qui accepte, mais qui ne fait pas. Et cela pour nous dire qu'aujourd'hui encore, si nous l'acceptons, nous pouvons saisir la main que Dieu nous tend pour vivre avec lui la suite de notre parcours de vie, qu'il soit bref ou long. Dieu seul le sait. Dans la vigne du Seigneur, il y a encore de la place pour ceux et celles qui répondent à son invitation. C'est ce qu'ont accepté de faire Zachée, Marie-Madeleine, ou la Samaritaine, par exemple, et tant d'autres après eux. Car tout au long des évangiles, nous découvrons que les témoins de la foi, petits ou grands, sont, comme nous, des pécheurs pardonnés qui ont saisi la main que Jésus leur a tendue. Souvenons-nous aussi du prophète Ézéchiel, qui nous dit également que ce qui est n'est pas définitif, puisque s'éloignant de Dieu, le juste peut se pervertir et le méchant se convertir et revenir à Dieu qui pardonne et qui relève. Nous pouvons, tu peux repartir avec lui. Le contexte de notre parabole en Matthieu 21 nous rapporte que Jésus était donc dans l'enceinte du temple de Jérusalem en train d'enseigner. Les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif s'approchèrent alors et lui demandèrent: « Mais de quel droit fais-tu ces choses? Qui t'a donné autorité pour cela ?» Et l'on comprend que leur question n'en était pas une, puisque leur seule intention était de mettre Jésus en accusation. Contestant son enseignement, ils le rejettent et s'enferment dans leur refus. Alors Jésus, au travers de la petite parabole des deux fils, leur rappelle que le collecteur d'impôts et les prostituées, eux qui avaient commencé par dire non à Dieu par leur mauvaise vie, eux se sont convertis.
ils ont accueilli celui qui seul pouvait donner un sens à leur existence. Les jeux ne sont jamais faits avec celui qui voit dans nos cœurs. Mes amis, en ce jour, nous aussi nous entendons « Mon fils, ma fille, va travailler à ma vigne. » Cette vigne, c'est le royaume de Dieu, et travailler, c'est être tout simplement artisan d'amour, de justice et de paix. Ce fils, cette fille, c'est vous et moi, et c'est tout homme, toute femme qui, même tardivement, même après une vie pleine d'échecs et de regrets, tumultueuse ou dissolue, décide d'accepter son invitation et de repartir avec Dieu, c'est témoigner très concrètement de la foi et de l'espérance qui nous habitent. Et c'est à notre amour prioritairement que nous serons reconnus comme disciples de Jésus-Christ. Cela dit, souvenons-nous aussi que Jésus a déclaré à ses disciples « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Il s'agit de comprendre ici qu'il soit mis à mort, afin, poursuit Jésus, que quiconque croit ait la vie éternelle. Il faut, c'est un impératif. Notre salut voulu par Dieu notre Père, dans son projet d'amour, devait passer par la croix. Il ne pouvait pas en être autrement. Certes, on peut toujours rêver d'un Dieu qui sauve les hommes d'un coup de baguette magique, mettant fin à toutes les crises, les guerres et les injustices qui blessent notre monde. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour nous. Il est question de vie et de mort, et Dieu n'est pas une bonne fée, ni n'utilise une baguette magique. Non, Dieu s'est donné lui-même pour nous. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Il l'a donné, j'insiste, au sens de livrer, au sens de sacrifier. Et ce qui a été voulu par le Père et consenti par le Fils est l'acte ultime de son amour. Il est mort pour chacun de nous, pour nous donner la vie et son pardon. C'est cela le mystère de la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Et ce sera bien sûr toujours un scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs, comme le disait déjà l'apôtre Paul. Mais c'est bien de cela dont nous avons à être les témoins dans le monde d'aujourd'hui et là où Dieu nous a placés. Mais, car il y a un mais, pour que nous soyons crédibles aux yeux de ceux qui nous entourent, il faut d'abord que ce grand mystère de la foi, nous nous l'approprions personnellement. Il s'agit d'accepter de mourir et de naître à une vie nouvelle avec Jésus, de demeurer en lui, attaché à lui, en communion avec lui, jour après jour, pour que sa mort et sa résurrection impactent et transforment notre vie personnelle et notre vie en relation avec les autres. Et cela passe par notre foi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Au XVIIIe siècle, le philosophe Emmanuel Kant affirmait que ce qui compte, c'est l'idéal moral proposé par Jésus. Eh bien, mes amis, si le christianisme n'était que cela, une idéologie, une simple éthique de vie, un idéal moral, comme le pensait Kant, qui faisait abstraction de l'humanité et de la divinité du Christ, alors il ne resterait pas grand-chose de l'Évangile. Car la foi chrétienne, très concrètement, c'est précisément Jésus ressuscité qui vient habiter par son esprit dans la vie de ceux et celles qui croient en lui, c'est-à-dire qui l'accueillent dans leur vie pour vivre de sa mort
et de sa résurrection, et puis avec son aide, pour faire sa volonté. Cela dit, nous n'avons bien entendu pas à juger les autres, et encore moins à les condamner s'ils méprisent notre foi. Mais avec l'aide de Dieu, à témoigner de celui qui nous a donné sa vie pour nous, et à vivre en rayonnant de son amour, de la foi et de l'espérance qui nous habite. Nous sommes envoyés dans sa vigne, dans ce monde, pour y être témoins de l'Évangile, et c'est bien à notre amour que nous serons reconnus comme ses disciples. Peu importe donc que nous soyons compris ou incompris, puisque notre conviction en tant que chrétien consiste à croire que l'amour de Dieu, loin d'être un sentiment diffus et abstrait, est si concret que lui participe à notre existence, et aussi à nos peines, à nos épreuves, et jusqu'à notre mort. Le don de la vie de Jésus sur la croix fait que nous sommes, pourrait-on dire, devenus propriété de Dieu, marqués du sceau de son esprit. Car le sang du Christ nous a rachetés de nos fautes et lavés du mal. Il nous soustrait à l'esclavage du péché et de la mort, comme le dit le Nouveau Testament. L'amour de Dieu est un amour très concret. Et quand l'Évangile nous parle de l'amour de Dieu, c'est en insistant aussi sur sa gratuité. C'est par la grâce, nous dit Paul, que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est l'amour gratuit que Dieu nous offre. Et puis, c'est de cette confiance sereine en la personne de Jésus dont nous avons à vivre, une foi lumineuse qui englobe non seulement ce que l'on croit, mais aussi ce que l'on a à vivre. Mais alors peut-être ne faut-il pas trop vite dire oui au Seigneur et aux exigences du royaume de Dieu. Le vrai disciple, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, dit Jésus. Peut-être faut-il d'abord prendre conscience de nos résistances. Ce que le Seigneur nous propose de vivre avec lui est exigeant et dépasse le plus souvent nos seules forces. Il est donc bon de mesurer la difficulté de ce chemin pour ne pas nous illusionner en prenant simplement de bonnes résolutions et en lui faisant des promesses que nous ne pourrons pas tenir. Le « oui » que nous sommes appelés à dire au Seigneur n'est pas un murmure des lèvres, mais un engagement qui lui remet aussi les zones les plus sombres et les plus secrètes de nos vies. D'ailleurs, Dieu ne se trompe pas sur nos intentions, puisqu'il nous rejoint et nous sollicite. Il respecte notre liberté et il sait que notre « oui » est souvent superficiel, que l'habitude dit oui à notre place et que nous nous rassurons parfois à bon compte en nous mettant dans le cœur du Seigneur. Et lui sait également que notre nom n'est jamais définitif. C'est souvent le nom de la tristesse, de l'agacement, de la fatigue ou du désarroi. Et lui sait que ce premier refus peut céder la place à un oui librement consenti. Dieu oublie nos refus. Il nous offre d'agir en fils ou en fille, et il tend la main, même aux plus rebelles et aux plus indociles. Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement culturel et social qui prétend qu'il n'existe que des vérités relatives, un environnement dans lequel les faits objectifs ont malheureusement moins d'influence que ceux qui font appel à l'émotion ou à l'idéologie ambiante. Or, Jésus, que nous voulons écouter, suivre et aimer, affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, pour nous, disciples du Christ, ce ne sont pas des idées, mais une présence, une personne vivante, Jésus qui nous a ouvert un vrai chemin de vie. Mes amis, en ces jours de début d'année civile nouvelle, ce qui est déterminant, ce n'est donc pas de croire que nous pourrions tout recommencer, c'est impossible. Mais c'est d'accepter de pouvoir repartir avec lui, comptant sur sa fidélité et sur sa grâce, pour écrire avec lui une page nouvelle à son service et pour sa gloire. Le Seigneur nous connaît chacun mieux que personne. Il connaît chacun de nos cœurs. Et en cet instant, il sait nos difficultés intérieures et nos peurs, nos échecs, nos faiblesses, nos rêves et nos regrets n'ont pas de secret pour lui. Mais ce n'est pas cela qu'il retient. Ce qui compte pour lui, c'est la place que nous lui faisons en nous et dans le concret de notre vie, et notre mise en pratique concrète de sa parole et de sa volonté. Et puis, vous l'avez entendu, avec le texte de ce jour, Jésus nous rappelle que chacun est capable de changer, et de changer pour le mieux. C'est lui qui le rend possible. Alors aujourd'hui, ce sera mon dernier mot impliquant le Seigneur dans ce nouveau départ et disant-lui notre désir de repartir avec lui pour que lui insuffle en nous un esprit nouveau, des pensées nouvelles. Dieu tracera alors pour nous un chemin tout au long duquel il nous accompagnera, car le passé n'est plus et notre avenir s'écrit aujourd'hui avec la plume et sous la conduite du Dieu fidèle et bon. Oui, heureux ceux et celles qui, ayant fait l'expérience de leurs échecs, de leurs faiblesses et de leurs limites, les acceptent et s'appuient sur la fidélité bienveillante de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, bien souvent au cours de nos journées et selon le déroulement de nos occupations, il nous faut choisir entre ce qui est oui et ce qui est non. Il faut décider du chemin à prendre. Il faut savoir où est la vérité. Et c'est là qu'il nous faut prendre le temps de te demander ce que toi, Jésus, tu aurais fait et comment tu l'aurais fait. Alors, Seigneur, avec ton pardon, augmente notre foi, afin que nous soyons ouvriers dans ta vigne et témoins de ton amour incommensurable, toi qui, en ton Fils bien-aimé, nous a tout donné. Au nom de Jésus-Christ, Amen.